c'est comme une dent. D'abord, on n'y a pas pensé, on s'est contenté de mâcher. Et puis ça se gâte soudain, ça vous fait mal, et on y tient, et on la soigne, et les soucis. Et pour qu'on soit vraiment guéri, il faut vous l'arracher, la vie.
Bonjour, ici Olivier Ninge, président de l'association À tout bout de champ. J'ai le plaisir de vous retrouver chaque mois sur cette antenne pour la chronique d'À tout bout de champ. Alors si vous aimez les belles paroles et les mélodies intemporelles, cette chronique est faite pour vous. Au programme, un voyage dans l'histoire de la chanson française et ses figures emblématiques, Georges Brassens, Jean Ferrat, Serge Reggiani, Barbara, Jacques Brel, Édith Piaf, Yves Montand, Renaud, Juliette Gréco, bien sûr, et bien d'autres tout aussi illustres. Et puis, on y raconte aussi des anecdotes sur les chansons qui ont marqué des générations et surtout l'histoire qu'elles racontent. Et ce n'est pas tout. Chaque épisode accueille des invités passionnants, experts ou artistes régionaux. Bien, que font ces artistes? Eh bien, ils nous livrent leurs réflexions, leurs inspirations et leur amour de la musique et des beaux textes. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Aline Algudo, une chanteuse merveilleuse et aussi une très belle interprète. Alors, elle nous interprète généralement les plus grands noms de la chanson française. Aline, bonjour.
Bonjour Olivier.
Et comme d'habitude, nous sommes accompagnés par le conteur Jean-Luc Michelet. Jean-Luc, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors Aline, merci de nous dire pourquoi et comment vous en êtes venue à la chanson. Et puis aussi, racontez-nous un peu votre parcours.
Alors déjà, je viens d'une famille où le chant était vraiment très très important. J'ai des souvenirs vraiment très lointains de ma toute petite enfance où j'étais à l'arrière de la voiture et où mon père, qui était un chanteur hors pair, nous chantait des chansons. Et pendant les voyages que nous faisions, et c'était vraiment un régal. Donc déjà, beaucoup, beaucoup d'intérêt pour la chanson et le chant. Et les souvenirs les plus lointains que j'ai de ma vie et de ma petite enfance, ça a toujours été l'épicentre, était vraiment le chant. Et je ne me suis jamais posé la question de ce que j'allais faire de ma vie. Et je savais que je chanterais. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement vital. Je détestais l'école, à part la musique. Et parce qu'en fait, j'avais vraiment l'impression d'y perdre mon temps.
Oui, mais enfin, c'est un peu comme un célèbre Gaulois, vous êtes tombé dans la marmite.
Complètement, voilà. Alors, après, bon, évidemment, une attirance pour les langues, parce que c'était une mélodie. Pour moi, les langues, les différentes langues, ce sont des mélodies. En fait, j'ai toujours été attirée par le son, par les mélodies, par... en fait, voilà, je suis tombée dans la marmite, comme tu dis.
Et donc, et après, alors
on... Et alors, ensuite, ben, dès que j'ai pu quitter le système éducatif de l'école, je suis partie à Montpellier au conservatoire. Et là, j'ai appris, donc à l'âge de 16-17 ans, la technique du chant classique. Donc, je suis rentrée vraiment dans le classique, ce qui m'a donné de très, très bonnes bases. Parce que maintenant, avec le recul, j'ai remarqué que tous les chanteurs ou tous les musiciens qui ont une formation classique sont capables de jouer n'importe quoi. Enfin, je veux dire n'importe quoi, dans n'importe quel style de musique. Et cette formation classique est vraiment très, très importante. En tous les cas, elle l'a été pour moi. Donc, j'ai fait 2 ans de formation et de technique de chant en classique. Et ensuite, très très rapidement, à l'âge de 20 ans, j'étais déjà sur scène dans un orchestre de bal. Et le bal est une très très bonne école, déjà pour l'endurance, parce que c'est 4 heures de scène. La diversité aussi des chansons que l'on y chante et que l'on y apprend. Et en même temps, l'esprit d'équipe. Voilà, de s'écouter les uns les autres et d'être capable d'assumer une tournée dans des conditions parfois difficiles, c'est ce qu'on appelle apprendre le métier. Et moi, je l'ai appris très, très rapidement. Et ensuite, avec le père de mes enfants, donc nous avons monté un duo. Et à partir de là, on a décidé de faire un répertoire extrêmement éclectique qui allait d'Erita Mitsuko à l'époque jusqu'à Piaf. Et moi, c'était pas vraiment ma culture hein, à cette époque, Edith Piaf, la chanson française et tout, mais il s'est trouvé que très rapidement, on s'est fait remarquer justement sur les interprétations qui étaient très originales, parce que c'était juste guitare acoustique et chant sur des chansons de Piaf. Et à l'époque, l'Office départemental d'action culturelle, il y avait un monsieur qui était le directeur qui s'appelait monsieur Jean Tufou et qui nous a donné l'opportunité de monter un spectacle entièrement dédié à Edith Piaf. Et là, vraiment, je suis rentrée dans l'univers de la chanson française par le biais d'Edith Piaf. Et là, j'ai découvert un monde incroyable et je me suis régalée dans l'interprétation et justement dans savoir comment avoir de la présence sur scène par le biais de ces textes-là.
Ben là, vous nous donnez envie. Ce que je propose, c'est qu'on vous écoute dans une chanson d'Edith Piaf.
Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent des orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou porté, pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait personne. Sur son bras droit, un mot résonne. Je ne sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin, plein de lumière. Il était mince, il était beau. Il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Bonheur perdu, bonheur enfui, toujours je pense à cette nuit. Et l'envie de sa peau me ronge. Parfois je pleure et puis je songe que lorsque j'étais sur son cœur, j'aurais dû crier mon bonheur. Mais je n'ai rien osé lui dire. J'avais peur de le voir sourire. On l'a trouvé dans le désert, il avait ses beaux yeux ouverts, dans le ciel passaient les nuages. Il a montré ses tatouages en souriant et il a dit, montrant son cou, pas vu, pas pris, montrant son cœur ici, personne. Il ne savait pas, je lui pardonne. Je rêvais pourtant que le destin me ramènerait un beau matin, mon légionnaire. Qu'on on s'en irait loin, tous les deux, dans quelque pays merveilleux, plein de lumière. Il était mince, il était beau, on l'a mis sous le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière.
Donc, si je comprends bien, d'abord études classiques, en quelque sorte, puis après, école, j'ai envie de dire de la rue, quoi. Enfin, le
ah
bal,
oui, oui.
Le bal.
J'assume totalement, je suis une chanteuse de rue.
Oui, bah oui.
J'adore.
Bien sûr.
Non, non, mais vraiment, oui, oui. Moi, je...
Ben, c'est ce qui donne du métier.
Après, on est capable de chanter dans n'importe quelle condition et on a vraiment du métier, quoi. C'est ça. Et puis, j'ai tellement une admiration, on en parlera peut-être plus tard, justement, de toute façon, Piaf, elle vient de la rue.
Bien sûr.
Hein, donc, c'est une sacrée référence et c'est un honneur d'être une chanteuse de rue, finalement.
Et donc, c'est parfait. Par le biais de Piaf que tu t'ouvres au monde de la chanson française.
Oui, mais il y a eu aussi un événement qui a été aussi très particulier, c'est que nous habitions à Sauvian, dans l'Hérault, et il y a le chanteur Daniel Guichard qui a sa villa. Évidemment, on a fait connaissance et lié une grande amitié avec Daniel. Et Daniel nous a introduit auprès de Pascal Sevran à la chance aux chansons. Donc on est allé faire une première prise à Paris, donc dans les studios de la chance aux chansons à l'époque. Et ça a énormément plu à Pascal Sevran. Et là, on a travaillé avec lui pendant 7 années. Et là, Pascal Sevran était un être exceptionnel par rapport au fait de savoir, par rapport à un artiste, qu'est-ce qui allait lui coller à la peau. Et donc, moi, il m'a fait découvrir des interprètes comme Frida Bocara, comme Pia Colombo, que je n'aurais jamais chanté. Et j'ai découvert vraiment des pépites. Donc, il m'envoyait des chansons à apprendre. On faisait des arrangements. Avec Michel Fournier, donc, qui faisait les arrangements et qui m'accompagnait à la guitare à l'époque. Et ensuite, on montait en avion et on enregistrait dans les studios de France 2. Et à chaque fois, il m'a fait apprendre des chansons, mais qui me collaient à la peau, mais vraiment, quoi. Et vraiment des chansons pas très connues, mais alors des pépites de chansons françaises extraordinaires. Et ça, en fait, a ouvert un champ d'application de la chanson française qui a été très diverse, finalement, et très... très très enrichissant pour moi dans ma culture et de comprendre qu'en fait j'avais peut-être une appétence ou un don particulier pour ce genre de chansons-là. Ce qui fait qu'après on n'a fait que le développer.
D'accord. Et si je te demande qu'est-ce qui domine, si je te disais une chanteuse à part Piaf, parce qu'on l'a cité, qu'est-ce qui te parle le plus, quoi?
Alors, évidemment, évidemment, Piaf, mais après, un peu plus tard, j'ai découvert Barbara. Piaf, c'est vraiment la chanteuse de rue, avec la chanson réaliste, avec un côté aussi féminin, de dévotion totale à son amoureux, à son homme. Hein. Barbara, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus, on va dire, spirituel, rebelle, plus même coquin, on pourrait dire, quelque chose qui va oser de rébellion, et ça me ressemble plus que Piaf. Donc, et c'est drôle parce que je vais beaucoup mieux retenir les textes de Barbara, qui sont plus compliqués que les textes de Piaf.
Parce que vous êtes en symbiose.
Oui, c'est ça. C'est énergétiquement, je me retrouve plus et j'aime beaucoup, beaucoup Barbara et tout son univers de très, très subtil, très mystérieux. Voilà. Mais après, bon, j'adore Piaf aussi. Voilà.
Ce que je propose, c'est qu'on t'écoute dans une chanson de Barbara.
Une petite cantate du bout des doigts. Obsédante et maladroite monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois. Seule je la joue maladroite, similaire et sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, si mi la ré sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile, fa sol do fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là. Disant bon je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si sol do fa. Mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la. Avec mon cœur pour la faire et mes 10 doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si sol do fa. Les anges avec leurs trompettes la joueront, joueront pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront, joueront pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Si mi la ré, si sol do fa.
Et ça me rappelle ce très beau spectacle que l'on a pu voir au cabaret avec Aline et Antoine Garrido qui chantaient Brel et Aline Barbara, qui était un grand moment.
De bonheur, il faut le dire.
Merci beaucoup.
Et donc... Donc Barbara, et après, qu'est-ce que...
Barbara, et puis après, ça va être toute toute la mouvance de la chanson française de cette époque. Je suis vraiment une amoureuse. J'ai découvert à travers Piaf et Barbara ce côté rive gauche et ce côté après-guerre. De ce quartier de Saint-Germain-des-Prés. Et là, s'est ouvert tout un univers incroyable de cette époque-là, quoi, de ce qui s'est passé à ce moment-là, qui a été exceptionnel, de l'après-guerre, d'un renouveau, d'une espèce de d'aspiration d'oxygène, de créativité incroyable qu'il y a eu et qui a fait que notre culture musicale française est d'une richesse incroyable et particulièrement la chanson française de Paris, qui parle de Paris. D'ailleurs, j'aimerais bien... Je te fais un petit clin d'œil au passage. J'aimerais bien monter un spectacle justement dédié à la chanson de Paris, en partant de la Révolution française jusqu'à nos jours. Parce qu'il y a des pépites, mais incroyables. D'ailleurs, il y a quelques années, je crois que c'était en 2013, oui, il y avait eu à Paris une exposition de la chanson française, fabuleuse. Donc en fait, ça, on va parler des quais, on va parler de la Seine, on va parler de Montmartre, on va parler des Champs-Élysées, on va parler... Mais c'est vraiment incroyable la richesse de la chanson française parisienne qui parle de Paris. Voilà.
D'accord.
C'est incroyable.
Ah ben quand on t'écoute, on y est déjà. Quoi.
Ah oui, oui.
Donc je lance un appel aux sponsors.
Voilà.
Appel aux sponsors, si vous voulez aider Aline à réaliser son rêve de spectacle.
Ça, c'est le prochain spectacle.
Sur Paris.
Ouais, voilà. Sur Paris, oui.
Et donc, après les 7 ans de... 7 ans, c'est un cycle, hein, 7 ans oui. Auprès de Sevran. Alors, ben, qu'est-ce qui t'arrive alors ? Comment
continue ? Eh bien, en fait, en même temps, on va dire que, en même temps que, enfin, sur les dernières années où on a, bon, où la chanson s'est arrêtée, parce que, bon, voilà, Pascal Sevran était fatigué et donc l'émission s'est arrêtée. En même temps, on avait été repéré par l'attaché commercial qui travaillait à l'époque au consulat de Houston au Texas, parce que j'avais été jeune fille au pair chez lui. Et un jour, on jouait à l'abbaye de Foncode et il se trouve que je retrouve ce monsieur, ce diplomate pour qui j'avais travaillé à l'époque de mes 19 ans. Et je le retrouve à l'abbaye de Foncode parce qu'il avait une résidence secondaire et il nous voit jouer et il me dit mais voilà, maintenant je suis en poste à Jeddah en Arabie Saoudite, est-ce que ça vous dirait de venir jouer? Alors on a dit ben oui, hein, soyons fous, pourquoi pas. Et en fait on est parti jouer et on est rentré dans le circuit des ambassades. Il faut savoir qu'une ambassade à l'étranger, c'est un peu la vitrine de la France. C'est-à-dire que autour de l'ambassadeur, il va y avoir l'attaché commercial, l'attaché culturel, etc. Donc c'est un petit gouvernement qui est là pour faire briller la France à l'étranger. Donc il va, l'attaché culturel se doit de faire briller ben, la culture musicale, les photographes, les peintres. L'attaché commercial va se devoir de faire briller ben, toutes les marques françaises, comme Roquefort, comme Perrier, etc., qui représentent la France. Donc on est rentré dans ce circuit-là, et à partir du moment où un spectacle, il trouve un spectacle de qualité, ben, on est parti dans le circuit des ambassades, et là on a fait pratiquement le tour du monde dans les ambassades, en chantant Piaf, Barbara, Moustaki, Léo Ferré, tout ça. Voilà, et c'est de là qu'est née cette... c'est venu étayer encore plus cet ancrage dans la chanson française à travers le duo que je formais à l'époque.
Donc, si je comprends bien, la France, c'est Paris, la Tour Eiffel et la chanson française sur Paris.
Ah, mais ça, c'est sûr que quand vous allez à l'étranger, quand on vous demande vous êtes français, les gens vous disent Paris... la vie en rose. Voilà.
Ah ben, ce que je vous propose, c'est que ben justement, comme on a la chance d'avoir Jean-Luc ici, il va nous lire un texte de Léo Ferré, ça s'appelle...
Saint-Germain-des-Prés. Léo Ferré. J'habite à Saint-Germain-des-Prés. Et chaque soir, j'ai rendez-vous avec Verlaine. Ce vieux Pierrot n'a pas changé. Et pour courir le Guilledou près de la Seine... Souvent, on est flanqué d'Apollinaire qui s'en vient musarder chez nos misères. C'est bête, on voulait s'amuser, mais c'est raté. On était trop fauchés. Regardez-les, tous ces voyous, tous ces poètes de dessous, le teint blême. Regardez-les, tous ces fauchés qui font semblant de ne jamais finir la semaine. Ils sont riches à crever. D'ailleurs, ils crèvent. Tous ces rimeurs fauchés font bien des rêves quand même. Ils parlent le latin et n'ont plus faim à Saint-Germain-des-Prés. Vous qui passez rue de l'Abbaye ou rue Saint-Benoît, rue Visconti près de la Seine, regardez, le monsieur qui sourit, c'est Jean Racine ou Valérie, peut-être Verlaine. Alors vous comprendrez, gens de passage, pourquoi ces grands fauchés font du tapage. C'est bête, fallait y penser. Saluons-les à Saint-Germain-des-Prés.
Voilà, moi quand j'écoute Jean-Luc, ça me confirme que écouter un texte de chant au départ, dit comme ça, je redécouvre la chanson sous un autre angle, je pense que bon, les auditeurs aussi, et c'est un régal. Alors, donc on en était à la période des ambassades. Et après, qu'est-ce qui vous arrive ?
Alors, donc là, dans les ambassades, ça a duré de 1998 jusqu'en 2007 à peu près. Et à la suite, eh bien, ça a été la création constante de spectacles et d'interprétations pour promouvoir la chanson française et continuer à promouvoir ces artistes. Donc le spectacle Piaf en noir et blanc, donc qui était le premier spectacle de création, hein, qui a tourné à l'étranger. Ensuite, on avait fait un autre spectacle qui était dédié à Barbara, qui s'appelait Gueule de nuit, qui était une commande aussi de l'Office départemental d'action culturelle. Et ensuite est venu évidemment ce qui a découlé de cet amour de la chanson française et justement du quartier de Saint-Germain-des-Prés que nous allons évoquer tout à l'heure, c'est que il y a eu le jazz. Hein, c'était après donc la Deuxième Guerre mondiale et évidemment il y avait les GI qui étaient là et donc le jazz est arrivé en France en masse et donc moi je l'ai découvert aussi tous les standards de jazz et j'ai énormément travaillé parce que c'était très très intéressant de travailler une autre façon de point d'appui sur la chanson française. Les points d'appui sont sur le premier et le troisième temps. Et le jazz, pour que ça swing, les points d'appui sont sur le deuxième et le quatrième temps. Donc, moi, j'adore les défis. Et je pense toujours que quand on reste dans sa zone de confort, on n'avance pas trop. Donc, il faut toujours se mettre dans un inconfort, justement, pour évoluer. Et donc, on a monté un spectacle sur les standards de jazz, mais en travaillant les interprétations et l'inventivité d'Ella Fitzgerald, qui, pour moi, est, par rapport à l'interprétation de tous ces magnifiques standards de jazz, c'est le top. C'est le summum, vraiment, de l'inventivité, de la créativité incroyable. Et donc, on a monté un spectacle donc, pour rendre hommage à Ella Fitzgerald avec Marc Evera et avec Michel Geronimo et Jean-Luc Miro à la contrebasse. Et alors, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à Marc Evera, qui est un ami du lycée. Donc, on se connaît depuis notre grande adolescence. Et donc, j'ai commencé à travailler avec lui en 2012. Et donc, à la suite, donc, il m'a tout le temps accompagnée sur mes spectacles et c'est lui qui a tout le temps fait les arrangements de tous les spectacles. Et donc, on a fait ce spectacle sur Piaf, on a fait un autre spectacle qui s'appelait Lettres en chanson, qui est un spectacle qui rend hommage à la chanson française sur toutes les chansons qui ont été écrites et composées sous forme de lettres. C'est très, très intéressant. Ensuite, on a fait un spectacle sur les chansons coquines et érotiques de la chanson française.
On les a tous voilà. Programmés ici.
Mais là, c'était une commande. Voilà, c'était une commande de la médiathèque de Béziers. Là, j'essaie de donner une excuse un petit peu. Oh non, c'est pas moi, c'est pas
non,
moi.
Non, il n'y a pas besoin d'excuses parce que j'ai vu ce spectacle, il est tout à fait...
Mais bon, voilà, c'était le défi sur ce spectacle, c'était de ne pas tomber dans le paillard, exactement. De rester dans la poésie, exactement. De ne pas dire de gros mots une seule fois, mais de rester quand même dans le sujet. Et donc là, le défi a été bien relevé. C'était la médiathèque de Béziers avait fait le sujet sur un mois sur l'érotisme. Et donc, nous avait commandé ce spectacle avec Marc. Et donc, on a relevé le défi avec des chansons de Colette Renard. Voilà.
Marc est bien connu des auditeurs parce qu'on a eu l'occasion déjà de faire des émissions avec lui. Notamment, il nous a fait une super émission sur justement la chanson qui fait déborder le jazz. Oui. Donc, ça fait le lien avec ce que tu viens de dire.
Voilà. Et puis ensuite, on a monté un spectacle qui s'appelle Empreinte de femme aussi, qui était vraiment pour rendre hommage à toutes les grandes autrices, compositrices et interprètes françaises sur plusieurs décennies aussi. Et ensuite, donc, on a monté le spectacle dont Jean-Luc parlait tout à l'heure. Mais là, c'est avec Laetitia Jollet au piano, pianiste extraordinaire aussi, et qui s'appelle La Rencontre, avec Antoine Garrido, fabuleux interprète de Brel. Et cette rencontre avec Barbara, et donc il y a toute une trame à travers les chansons qui se répondent comme ça sur un courant de vie, avec l'exubérance et la folie un petit peu de Brel, et la réserve, la rébellion et la provocation un petit peu de Barbara. Et donc là, je reprends toutes les chansons à travers la chanson de Saint-Germain-des-Prés avec Laetitia Jollet, où là, on a... c'est pas une conférence spectacle, c'est pas une conférence concert, mais quand même, on va replacer la chanson française dans son contexte et à cette époque-là, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés.
D'accord. Voilà. Donc, nous aurons le plaisir de pouvoir assister à ce spectacle le dimanche 8 novembre à 16h à la salle au cabaret 27 avenue de l'Âtre de Tassigny à Narbonne. Alors oui, là maintenant on rentre de plein pied dans le sujet, donc c'est raconter Saint-Germain-des-Prés. Moi quand on me dit ça, moi je pense tout de suite à Boris Vian.
Oui, à Boris Vian. Alors, évidemment, c'était le prince de Saint-Germain-des-Prés, hein, c'est comme ça qu'on l'appelait.
Eh bien, écoute, je te propose qu'on écoute un texte de Boris Vian, mais avec ton interprétation.
Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gomme. Ça demande des mois turbains, c'est une vie de galérien. Mais lorsque je sors à son bras, je suis fier du résultat. Je suis snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Nylon du Congo, guépière de Pilou, chaussures de Diego et méchant tailleur à son sou. Un rubis au doigt, de pied, pas celui-là. Les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob. C'est bat. Je m'appelle Chantal, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est toute nue dans la cour. On se réunit avec les amis tous les mercredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai tourner. De l'autre côté, c'est passionnant. Je suis snob. J'ai une foudroyante garde-robe. J'ai des accidents jaguar. Je passe le mois d'août au plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai morte, je veux un suaire. De chez Dior.
Voilà. Alors pourquoi ce grand intérêt pour cette période de Saint-Germain-des-Prés ?
Alors parce que ça a été vraiment, après ces moments terribles de la Deuxième Guerre mondiale, d'un coup, dans ce quartier-là, un vivier de création et de créateurs, mais pas seulement des chanteurs, chanteuses, c'était vraiment au Café de Flore avec Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir qui ont lancé vraiment le mouvement de l'existentialisme. Hein. Et donc, ça a été vraiment un renouveau. Albert Camus, évidemment Boris Vian, Juliette Gréco, bon, il y en a eu nombre d'autres. Mais ça a été vraiment ce mouvement-là qui a été comme qui a été magnétique en fait et qui a attiré. C'était l'endroit où il fallait être si on voulait, quand on avait quelque chose à dire. Et que voilà, où il fallait être, comme Léo Ferré, comme il y avait une grande liberté d'un coup de penser, de renouveau, etc. Et dans ce lieu-là, parce que je pense moi personnellement que énergétiquement, étant donné que par son histoire, Saint-Germain-des-Prés était déjà à la base un haut lieu de spiritualité. Donc il y a des endroits comme ça. Il faut savoir qu'à l'époque on ne construisait pas des abbayes ou des églises n'importe où. Il y avait des endroits énergétiques, des points énergétiques où les gens étaient beaucoup plus connectés qu'à notre époque maintenant, et on ne construisait pas les endroits n'importe où. Donc il y avait une attraction particulière dans ce lieu-là de Saint-Germain-des-Prés qui a fait que ça a été une explosion de créativité.
Oui, et en même temps aussi le contexte économique et social, quoi. C'est la sortie de la guerre.
Ah oui, c'est le grand boom.
Besoin, voilà, il y a besoin d'expression libre.
Complètement.
Voilà, c'était les caves, on y arrivait à minuit.
Oui, et puis on sortait vraiment de la chanson réaliste, plombée. Là, on était beaucoup plus dans la poésie, dans quelque chose de plus positif, de plus libéré aussi. Et je pense que les chansons actuelles que nous, interprètes de la chanson française, continuons à promouvoir au fil des années, n'ont jamais été égalées. Hein. Enfin, moi, personnellement, oui, de temps en temps, mais bon, ça c'est quand même au niveau des textes et de la composition. Il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde sortait du conservatoire. Hein. Les plus grands compositeurs qui sont restés derrière Piaf, derrière tous ces grands interprètes et tout ça, sortaient tous avec des diplômes de conservatoire. Et la musique, c'est un langage mathématique. Hein. On compose pas n'importe comment.
Bien sûr, et puis voilà. À Saint-Germain-des-Prés, c'était la rencontre justement de ceux qui savaient écrire, de ceux qui savaient chanter, de ceux qui savaient interpréter, parce que Boris Vian, c'était pas un chanteur, mais en même temps, il a écrit des textes merveilleux, et puis Sartre, il a écrit pour Gréco, enfin voilà, c'était
c'est un mélange. Oui, Jacques Prévert, on ne peut pas parler de Saint-Germain-des-Prés sans évoquer Jacques Prévert.
Mais pour moi, le pendant de Boris Vian, c'est Gréco, quoi, parce que c'est vraiment la muse de Saint-Germain-des-Prés.
C'est ça, c'est qu'elle a même lancé une mode, c'était vraiment dans sa façon de s'habiller en pantalon. Voilà, il faut se replacer dans le contexte, hein, c'était pas évident, hein, juste pendant les années 40, enfin fin des années 40, là. Voilà, et donc il y avait plein de lieux comme ça qui s'improvisaient, où la jeunesse qui avait énormément souffert de restrictions et tout pendant cette guerre mondiale, se retrouvait, et là ça se lâchait. Donc il y avait des endroits sur le côté rive gauche de la Seine qui s'improvisaient en cave de jazz. Miles Davis est tombé fou amoureux de Gréco, il a amené le jazz. C'était incroyable, quoi.
Gréco, c'était une jolie môme. Je propose qu'on écoute ton interprétation de cette magnifique chanson de Léo Ferré.
T'es toute nue sous ton boule, t'as la rue, t'es ma boule, jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie môme. le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli moment. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli moment. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps, t'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli moment. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil, t'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou à fausse la ferme et c'est doux, joli môme. La violette et le violon font violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps, t'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie, t'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, ah faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt, t'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone, t'es qu'une joie en aller, hey, va chez lui la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qu'est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qu'est ma boule.
Alors cette chanson « Joli môme », c'est une chanson donc écrite par Léo Ferré. Et chaque ligne est extrêmement coquine. Quand on regarde vraiment la chanson, ça parle un peu de cette légèreté, de cette époque où les mœurs étaient un petit peu débridées, où voilà, on sortait de toutes ces restrictions. Il y avait vraiment une envie de joie de vivre et de se libérer de toute interdiction, finalement. Et donc, à travers ce spectacle de la chanson de Saint-Germain-des-Prés, c'est vraiment justement de faire ressortir ce côté-là et cette naissance particulière de l'existentialisme, justement, qui est de briser les tabous, d'être un peu plus égocentrique. Hein. C'est-à-dire, cet existentialisme, c'est qu'il n'y a pas de choses qui sont préconçues. C'est-à-dire que, on va faire un petit peu ce qu'on a envie de notre vie. C'est plus les parents qui vont nous dire, tu reprendras l'entreprise familiale, etc.
Oui, ça développe le « je suis responsable de ce qui m'arrive ».
Voilà, c'est
très important. C'est quoi. C'est responsable, ça veut dire responsabilité, ça veut dire habilité à répondre. Quoi. Donc, je suis le seul à trouver des réponses pour moi.
Tout à
fait. Et ça bouscule un peu
complètement.
L'ambiance. Quoi.
Oui, oui. Oui, ça va déboucher sur mes 68.
Bien sûr. Oui, puis quand tu dis ça aussi, puisqu'on est toujours dans Saint-Germain-des-Prés, les mots à double sens, là, c'est difficile de ne pas citer Gainsbourg.
Alors, c'est justement à travers ce spectacle, on a voulu montrer cet éclairage sur cette période particulière de libération à travers les textes, à travers les chansons, et cette explosion de pépites d'artistes qui ont été attirés, comme je disais, dans ce quartier-là. Et grâce au fait qu'il y avait plein de lieux qui s'improvisaient comme des scènes et comme des auditoires, justement pour écouter tous ces gens-là. Il n'y avait plus de règles de concerts, parce que là, c'était beaucoup des concerts dans les salles, très protocolaires. Là, d'un coup, tout le monde jouait partout. des caves s'improviser lieu de d'expression, que ce soit la poésie, que ce soit la chanson, que ce soit pour des idées politiques aussi, hein, philosophiques. Et donc c'est justement de faire revivre à travers la chanson cette période extraordinaire qui perdure à l'heure actuelle, parce que on ne cesse d'en revenir là, parce que c'est des écritures et des créations d'une qualité incroyable, quoi.
Oui, puis c'était aussi des rencontres, des fois des rencontres improbables, parce que je parlais de Gainsbourg, et moi j'aime bien aussi cette rencontre avec Régine, la reine de la nuit, et cette chanson, Les petits papiers.
Oui.
Là aussi, je trouve que ça symbolise vraiment Saint-Germain-des-Prés. Mais je propose qu'on l'écoute, parce que j'adore ton interprétation. Donc écoutons Les petits papiers.
Parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer. Un peu d'amour en papier velours et d'esthétique papier musique, c'est du chagrin papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser papier glacé, les sentiments papier collant, ça impressionne papier carbone, mais c'est du vent. Papier doré, celui qui touche papier tu mouches, et moitié fou, c'est pas brillant papier d'argent, c'est pas donné papier monnaie, où l'on en meurt papier à fleurs, où l'on s'en fout. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer.
Voilà, mais le mouvement de Saint-Germain-des-Prés, ben comme tout mouvement, a eu un début, un milieu, et puis après, tout doucement, une chute.
Oui, parce que c'est l'évolution des choses, c'est comme ça, tout est en mouvement, hein, tout vibre, tout bouge. Donc le mouvement de Saint-Germain-des-Prés et ce quartier, par la modernité et puis par l'évolution aussi de la technologie, de l'industrialisation, etc. Et la ville de Paris qui a pris un essor incroyable. Et puis aussi le fait que les moyens de voyager ont évolué. Donc il y a eu des mélanges qui se sont faits de plus en plus. Donc ce mouvement s'est étiolé, mais... quand même, quand on voit ce qui a perduré de cette époque-là, c'est que des grandes carrières. C'est-à-dire tous les artistes, interprètes, compositeurs, chanteurs, chanteuses de cette période ont quand même duré à travers les années et nous laissent un héritage fabuleux que nous, interprètes, continuons à faire vivre. Grâce à des associations comme la tienne.
Merci. Oui, puis finalement, ça nous laisse un goût de nostalgie. Et on retrouve ça dans le très beau texte de Souchon que Jean-Luc va se faire un plaisir de nous narrer.
Mais oui, ça tombe bien parce que dans Rive Gauche, Souchon parle de cette nostalgie de cette époque, justement, avec même un peu de colère, je dirais. Rive gauche. Les chansons de Prévert me reviennent, de tous les souffleurs de Verlaine, du vieux Ferré, les cris, la tempête. Boris Vian, ça s'écrit à la trompette. Rive gauche à Paris, adieu mon pays de musique et de poésie. Les marchands mal appris, qui d'ailleurs ont déjà tout pris, viennent vendre leurs habits en librairie. Si tendre soit la nuit, elle passe. Oh, ma Zelda, c'est fini. Montparnasse, Miles Davis, qui sonne sa Gréco, tous les Morrison et leur Nico. Rive gauche à Paris, oh, mon île. Oh, mon pays de musique et de poésie, d'art et de liberté éprise. Elle s'est fait prendre. Elle est prise. Elle va mourir, quoi qu'on en dise. Et ma chanson la mélancolise. La vie, c'est du théâtre et des souvenirs. Mais nous sommes opiniâtres à ne pas mourir. À traîner sur les berges, venez voir. On dirait Jane et Serge sur le pont des Arts. Rive gauche à Paris, adieu mon pays, adieu le jazz, adieu la nuit. Un état dans l'état d'esprit traité par le mépris, comme le Québec par les États-Unis, comme nous aussi. Ah, le mépris.
Bah écoute Aline, encore des échanges passionnants et on pourra discuter encore pendant des heures là-dessus, mais bon. Les meilleures choses ont une fin, et donc ma question pour terminer, c'est comment tu peux convaincre les auditeurs de venir à ce magnifique spectacle sur Saint-Germain, qui, je rappelle, aura lieu le dimanche 8 novembre à 16h, à la salle Au Cabaret de Narbonne, donc 27 avenue de Lattre de Tassigny. D'ailleurs, il y a un numéro de téléphone. On peut déjà même s'inscrire au 06 21 46 75 81. Je répète, parce que dans ces cas-là, on n'a pas le crayon, on n'a pas le papier. Alors voilà. Donc j'ai le papier, j'ai le crayon, et j'écris 06 21 46 75 81 pour réserver, parce que je suis sûr qu'on va encore jouer à guichet complet.
Bien, merci. Eh bien, tout simplement, ça peut être aussi un acte militant pour faire perdurer notre belle musique française et nos beaux textes français dont on peut être vraiment fier, qui brillent à travers le monde entier, puisque j'ai quand même pas mal chanté à l'étranger. Et on peut se retrouver dans n'importe quel petit village paumé, comme c'est arrivé... Enfin, village, c'est pas un village, c'est une ville comme... au Yémen ou dans des pays incroyables, enfin qui sont vraiment éloignés de chez nous, et entonner une chanson comme Non, je ne regrette rien, et avoir une espèce de clameur comme ça dans la salle, et de voir les gens qui même ne parlent pas français mais qui chantent la chanson avec vous. Donc ça, ne jamais oublier à quel point nous avons une culture musicale magnifique, mais vraiment magnifique, et qui a été vraiment promue à cette époque-là de ce quartier de Saint-Germain-des-Prés. Si vous avez aussi envie d'apprendre cette histoire et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque et pourquoi il y a eu autant de création et de créativité et qui perdure à l'heure actuelle, voilà, et l'éclectisme aussi de tous ces auteurs, compositeurs et interprètes qui vont voilà, de Boris Vian passant par Gainsbourg, Brel qui a fait ses débuts aussi, Brassens. Enfin, je veux dire, c'est vraiment Prévert, c'est un vivier et de d'éclectisme et de textes à la Léo Ferré, à tous ces gens-là magnifiques. Donc de passer ce moment et de se plonger dans cette cette machine à remonter le temps et de se retrouver dans ce magnifique quartier de cette époque de Saint-Germain-des-Prés.
Bon, ben Aline, merci. Moi, ça y est, je suis convaincu. Alors, merci pour cette rencontre.
Merci
à Jean-Luc. Et puis merci à Radio Languedoc de nous accueillir tous les mois sur cette antenne.